Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
Bienvenue dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98h Radio X en ce vendredi soir. Sans plus attendre, accueillons Christian Page. Christian, bonsoir.
Bonsoir, Nick.
As-tu passé une belle semaine?
Oui, écoute, cette semaine, j'en reparlerai un peu plus tard dans l'émission, mais c'était ma semaine de lancement de mon 17e livre.
Wow!
Les Chroniques de l'étrange, tome 2. Alors, si tu comprends que ça a été très occupé.
Ben oui, j'imagine.
Quand on est dans une semaine de lancement, c'est toujours très occupé. Fait que, bon, je t'en reparlerai en deuxième partie, oui, de l'émission, mais bon, j'ai hâte que le week-end arrive.
Alors, je comprends très bien. ce soir, le thème de l'émission sera entre autres sur la parapsychologie et la cryptozoologie. Et on,
exact,
va débuter avec une étude des psys dans les pensionnats autochtones.
Oui, ça c'est assez... c'est intéressant parce, ouais, que généralement, quand on parle des pensionnats autochtones, c'est jamais de très bonnes nouvelles. Hein. On découvre, là, année, ouais, après année, ce qui a été fait. Il, hein, faut quand même le rappeler, les pensionnats autochtones, c'est de 1831 à 1996. On a l'impression que c'est très ancien, mais pourtant, 1996, c'est pas si loin. Ça a été la fin des, en fait, du financement des pensionnats autochtones. Et, bon, évidemment, on comprend que l'idée était de retirer, dans bien des cas, on retirait les enfants de des familles pour une meilleure intégration à la communauté, là, blanche et occidentale. Donc, et avec ça, ben, comme les enfants étaient retirés souvent de leur environnement, leur milieu, là, de vie, ben, ils se retrouvaient dans, mm-hmm, ces pensionnats et avec tout ce que ça a entraîné comme des
comme
abus
problème,
à la fois,
ouais,
physiques et psychologiques. Donc, c'est pas une page très, très brillante de notre histoire. Mais bon, là, on vient de découvrir quelque chose qui est... Ben, qui est à la fois condamnable dans la mesure où ça s'est fait un peu sous le manteau, mais ce cas-là, il n'y a pas eu d'abus ou quoi que ce soit. On découvre progressivement que, quelque part, dans l'hiver de 1940 et 1941, dans un pensionnat de Brandon au Manitoba, des scientifiques auraient mené des recherches pour évaluer la perception extrasensorielle des enfants. Et en fait, on découvre à travers ce qu'on trouve comme document que c'était la première fois d'ailleurs qu'on ciblait principalement un groupe, une ethnie en particulier. Généralement, les recherches en parapsychologie se faisaient un peu at large, de façon générale, vers tous les groupes de population, mais cette fois-là, on a définitivement ciblé un groupe en particulier, et dans le cas présent, c'était les Autochtones. Donc, je te parle de ça parce que ce sont des documents qui viennent un peu d'être mis à jour, qui sont conservés dans les archives de Santé Canada, et c'est là que sont conservés, en fait, à peu près tous les documents concernant la grande période des pensionnats autochtones. Et cette expérience, elle avait déjà fait l'objet d'une publication en 1943 dans le Journal of Parapsychology. Donc, mais ça avait été oublié, puis on comprend bien que le Journal of Parapsychology, c'est pas le Devoir, c'est pas la presse, c'est pas le Journal de Québec. Là, t'sais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui se rue sur ce genre de publication. Publication très nichée, qui s'adresse à une communauté en particulier. Et donc, qu'est-ce que l'on découvre peu à peu avec ces documents qui apparaissent? C'est qu'à l'époque, en 1943, il y avait l'Université de Duke, en Caroline du Nord, qui avait son propre laboratoire de recherche en parapsychologie. C'est encore vrai aujourd'hui, quoique c'est un peu différent. À l'époque, dans la première moitié du 20e siècle, par exemple, on avait de très nombreuses universités aux États-Unis qui avaient leur propre laboratoire de recherche en parapsychologie. La parapsychologie avait un peu le vent dans les voiles, et puis... je dirais même que ce vent dans les voiles s'est accentué en 1969 lorsque l'Académie pour l'avancement des sciences ou l'Association pour l'avancement des sciences aux États-Unis a reconnu que la parapsychologie était un intérêt scientifique tout à fait fondé. Hein, et ça, c'est un peu comme le cautionnement. Si c'était cautionné par, on l'appelle les 3 AS, là, AAAS, là, American Advance for Science, là, quand tu as une espèce de reconnaissance auprès des 3 AS qui disent « Ah oui, ce que tu fais, ça c'est sérieux, c'est valable scientifiquement parlant », ben là c'est un peu comme si tu avais tes lettres de noblesse. entendons-nous, les trois AS, ouais. là, là, ne reconnaît pas que la perception extrasensorielle existe. Ce qu'elle reconnaît, c'est que d'étudier la parapsychologie ou d'étudier la perception extrasensorielle est scientifiquement valable. Mais ça pourrait être aussi valable que d'étudier l'évolution de la mousse verte sur les crotons. Tu sais, tu comprends, il y a pas, faut faire attention. Là. Oui. On se dit, OK, ça, faire ça, c'est il y a un intérêt scientifique. Puis oui, ça peut avoir une valeur scientifique que d'étudier ça, sans cautionner pour autant la réalité de ça. Mais bon, il faut savoir que la recherche expérimentale en parapsychologie est née au tout début du 20e siècle. C'est un mouvement qui est né, un mouvement scientifique qui est né en dissociation, si je puis dire, avec le mouvement spirit. Puis là, ben, je ne veux pas revenir puis refaire l'historique de tout ça, mais le mouvement spirit s'est développé là, au milieu du 19e siècle, principalement aux États-Unis, puis ensuite ça a gagné assez rapidement l'Europe. Et donc là, les gens, des médiums, disaient pouvoir communiquer des défunts. Et ça a suscité évidemment un intérêt auprès de la communauté scientifique, et des scientifiques se sont intéressés à ces manifestations de l'au-delà. Mais sur la frontière, là, entre le 19e et début du 20e siècle, beaucoup de ces scientifiques se sont dit, bon, OK, communiquer avec des tables, donner des coups dans des tables, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de mieux? Et on s'est commencé à se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des esprits qui se manifestent ou est-ce que c'est le médium qui involontairement produit ces manifestations? Donc, il y avait toute une espèce de préoccupation. Et là, peu à peu, on a élargi vers, OK, mais si tout ça existe, est-ce qu'il y a une âme? Est-ce qu'il y a une conscience? Bon, quelles sont les facultés humaines? Et peu à peu, on a vu apparaître la parapsychologie, hein, cette science qui étudiait la perception extrasensorielle. Et un des fondateurs, ou en fait un des pionniers dans ce domaine-là, au niveau expérimental, de dire, OK, est-ce qu'on peut utiliser ça? C'est beau les fantômes dans des salons mal éclairés à la bougie pour communiquer avec l'au-delà, là. Mais est-ce qu'on peut étudier ces phénomènes-là dans des laboratoires bien éclairés avec des conditions et des protocoles là, bien établis? Et l'un des pionniers là-dedans, ben, ça a été le docteur J.B. Rhines, qui était à ce moment-là à la Duke University en Caroline du Nord. Et donc, il a comme créé le laboratoire de recherche sur le phénomène de parapsychologie. Et ce laboratoire-là, il a été longtemps présent au sein même de l'université. Et puis, à un moment donné, disons dans les années 70-80, la parapsychologie s'est retrouvée un peu en... Bon, on a commencé à perdre un peu d'intérêt pour ça. Et les universités ont pris leur distance, tant et si bien qu'il existe encore auprès de la Duke University un campus, disons ça comme ça, qui fait de la recherche en parapsychologie. Mais maintenant, c'est le laboratoire de recherche en parapsychologie Duke ou J.B. Rhines Research Center. Il n'est plus aussi officiellement associé à l'Université Duke. Okay. Mais il a été quand même, on a pris un peu ses distances, mais quand même, il reste collectivement et dans la mémoire associé à l'Université Duke. Et c'est là que ça nous amène, donc on est dans les années 40, le laboratoire roule à plein rendement, et donc on va décider de mener une série d'expériences en utilisant des cartes Zener. Là, tu poses peut-être la question, mais c'est quoi les cartes Zener? La plupart des gens ont probablement vu ces cartes-là ou bien passées à la télévision dans des émissions avec des magiciens ou des trucs comme ça, ou si vous avez regardé des séries comme X-Files ou de ce genre de trucs-là. Ce sont des cartes qui ont 5 symboles. Hein. On a un triangle, on a des vagues, on a une croix, un cercle. Bon, tu vois un peu, je sais pas si ça te dit quelque chose.
Oui,
là, maintenant.
Tout à fait.
Donc ça, ce sont les cartes Zener, et donc des cartes avec 5 symboles. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, on va utiliser ces cartes-là pour essayer d'évaluer la perception extrasensorielle. Et ça a été utilisé de manière très large là, dans les laboratoires de recherche en parapsychologie. C'est ce type de carte qu'on a utilisé pour évaluer ces enfants autochtones. Je le rappelle, hein, c'était dans le pensionnat de Brandon au Manitoba. On a sélectionné 50 élèves qui étaient âgés entre 6 et 20 ans. Et bon, l'idée, ben, c'était, c'est ça, de déterminer ce qu'ils pouvaient percevoir à l'avance le retournement des cartes. Donc, c'était un principe assez simple. On met un écran,
oui,
puis il y a quelqu'un devant qui dit « je tourne une carte », puis l'autre personne qui ne peut pas voir la carte dit « bon,
détermine,
hein, ça va être un carré, une étoile, un carré, les vagues, bon, la croix, bon, c'est un peu ça qui est... » Et puis on s'est aperçu, en tout cas dans le résultat qui a été publié, les enfants étaient remerciés en recevant des bonbons. Quelle que soit la qualité de leur résultat, ils recevaient des bonbons. Et donc, le résultat montre que les jeunes ont démontré une perception extrasensorielle qui était... En tout cas, il y avait un groupe de 10 d'entre eux qui avaient des résultats qui étaient à peu près de... Ils avaient une chance sur 700 que le hasard soit en ligne de compte. Donc, ils réussissaient des performances qui étaient au-delà du hasard. Donc, une chance sur 700. Et donc, c'était pour un groupe de 10 de ces jeunes. Et bon, l'expérience a été menée pendant quelques semaines. Et le résultat a été publié, comme je l'ai mentionné, dans un article, même si l'expérience a été menée à l'hiver 1940-1941, à cause de l'effort de guerre, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là, les résultats n'ont été publiés qu'en 1943. Bon, ça fait l'objet d'un petit article dans le Journal of Parapsychology, et peu à peu, ben, cette histoire-là a été oubliée. Et là, donc, on vient en... Parce que là, actuellement, il y a cette espèce de commission de la réconciliation qui a été mise en place, tout ça, avec les Premières Nations. Et donc, en fouillant dans ces archives, on a retrouvé, en fait, les éléments liés à cette expérience, qui, pour une fois, n'était pas agressive, n'était pas dommageable ou en quoi que ce soit. Là. Donc, les jeunes ont accepté spontanément de participer à l'expérience, recevaient, encore une fois, comme je l'ai mentionné, comme rétribution, des bonbons. Mais bon, personne n'a été molesté durant l'expérience. Et puis, ça nous a révélé, en fait, des résultats assez surprenants pour 10 d'entre eux. Ce que souligne toutefois l'étude, et là, ce que souligne l'étude aujourd'hui, là, c'est-à-dire que ces documents-là ont été déterrés tout récemment, et ceux qui ont déterré ces documents-là ben, disent que le protocole, quand on lit... parce que tout le détail du protocole était mentionné, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'article publié en 1943, c'est que le protocole était un peu laxiste. Hein. Donc, on dit, bon, les jeunes ne pouvaient pas voir la carte, puis la personne qui tournait les cartes devant eux était neutre, mais l'était-elle vraiment, ou est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné des connes qui s'improvisaient, là, c'est-à-dire que si je claque de la bouche comme ça, ou je me gratte l'oreille, c'est telle chose. Ça veut dire, dans quelle mesure c'était contrôlé? T'sais, si je me tire le bout de l'oreille, ça veut dire que c'est une croix. Si je me gratte le dessus de la tête, c'est des vagues.
Les codes de baseball.
Ouais. Voilà, ouais. Oui, voilà les codes de baseball. Ouais. Donc, dans quelle mesure on a pu développer des codes de baseball qui fait qu'on a un peu faussé les données. Mais bon, je trouvais ça intéressant de voir que ce type d'expérience avait été faite. Et ici, ben, en fait, il y avait une première. La première, c'était de cibler un groupe, une ethnie en particulier. Dans le cas présent, bien, c'était une ethnie des Premières Nations. Donc, ces résultats-là n'ont pas bouleversé la parapsychologie. Et bon, ben, disons que pour une fois qu'il y a eu, dans le cadre des pensionnats autochtones au Canada, qu'il y a eu une expérience qui avait un peu réjouissante et amusante, parce qu'on a l'impression, quand on lit les protocoles et on lit les résultats, tout ça, que les jeunes ont, somme toute, assez apprécié participer à une expérience comme celle-là. Donc voilà, c'était à mentionner, expérience psy dans les communautés autochtones. Mon deuxième sujet que je voulais te parler dans cette première partie d'émission, puisque là, je vois le temps qui file.
Ouais.
On est déjà arrivé à la moitié du premier bloc.
Oui.
Il y a un truc, écoute, quand on parle des fraudes dans l'univers du paranormal, il y a de ces fraudes qui, et là je parle en mon nom personnel, il y a des trucs où je me dis, ça c'est sûr que c'est une fraude. Mais en même temps, j'ai l'agacement de ne pas pouvoir dire pourquoi c'est une fraude. Je ne peux pas démontrer la fraude. Je suis persuadé dans mon fort intérieur qu'il s'agit d'une fraude, mais je ne peux pas la démontrer. Et ça, je trouve ça très agaçant. Et l'une de ces fraudes, pour moi, et là je ne parle encore une fois qu'en mon nom, là on glisse un peu dans l'univers de la parapsychologie, c'est un célèbre film qu'on appelle le film Patterson-Gimlin. Donc, je te résume, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, mais pour les auditeurs, je vais rappeler un peu l'événement. On est en octobre 1967 et ça se passe à Bluff Creek, en Californie. On est en pleine période où il y a une excitation autour des histoires de Bigfoot, Sasquatch. Là, donc, Bigfoot du côté des Américains, Sasquatch au Canada, cette espèce de créature simiesque, mi-homme, mi-gorille, qui entrait les forêts là, dans... ou les contreforts des montagnes rocheuses, et particulièrement sur la côte ouest américaine et canadienne. Faut-il le dire, les observations les plus... le plus grand nombre d'observations ont été rapportées dans les États côtiers des États-Unis, hein, donc l'Oregon, l'État de Washington et le nord de la Californie. Et au Canada, bien sûr, c'est la Colombie-Britannique, même si on a aussi des observations dans d'autres provinces comme la Saskatchewan ou l'Alberta. Mais c'est principalement la Colombie-Britannique. Et du côté des Américains, ben, c'est l'État de Washington, l'Oregon et le nord de la Californie. Et donc, il y a comme dans la deuxième moitié des années 60, il y a tout un engouement autour de ces histoires-là. Pardon. Et en octobre 67, donc, on a deux hommes, Roger Patterson et Bob Gimlin. Gimlin est lui-même un métisse, hein, spécialiste dans la traque des animaux en forêt. Roger Patterson, c'est comme un petit escroc à la petite semaine. Hein, bon, c'est le type de gars, si tu es sûr qu'il y a une pièce à faire quelque part, puis que c'est un petit peu louche, là, ben Roger Patterson n'est jamais bien ben loin. Ouais. Il lève la main. Ouais. Y a-tu quelqu'un montant une manigance? Oui, Roger Patterson est toujours là. T'sais, donc, c'est un bon candidat. Et Roger Patterson est fasciné par les histoires de Sasquatch et de Bigfoot. Donc, et là, on parle de son intérêt. Mais t'as beau être un escroc, t'as le droit de te passionner pour le hockey. Là, donc, Roger Patterson, lui, sa passion, c'est le Bigfoot. Et là, ben, il rêve de tourner éventuellement un documentaire sur le Bigfoot, tout ça. Et donc, en octobre 1967, il y a des empreintes de Bigfoot qui sont repérées, observées dans les Blue Mountains. On est dans le nord de la Californie. Et donc, les quelques articles de journaux sont publiés là-dessus. Oh, des empreintes de Bigfoot ont été vues. Et Roger Patterson se dit, ben voilà, c'est l'occasion que j'attendais. Donc, il va convaincre son ami Bob Gimlin, qui est plus une connaissance qu'un ami même, une bonne connaissance. Il le convainc de l'accompagner et ils vont aller patrouiller à dos de cheval dans cette région-là pour essayer de voir un Bigfoot ou de documenter. Et il va louer une caméra. Hein, donc, il est optimiste. Hein, et donc, il loue une caméra qu'il va amener avec lui. Et il va donc tourner plein d'images de lui à dos de cheval, les arbres, bon, des écureuils, des castors. Tu comprends? Il tourne des images. Là. Éventuellement, il veut tourner un documentaire sur le Bigfoot. Donc, il a besoin d'images. Et évidemment, la chance va lui sourire. On est le 20 octobre 67, en début d'après-midi. Et là, ils arrivent à Bluff Creek. Bluff Creek, c'est une espèce de petite rivière asséchée. Et là, un événement qui va passer à l'histoire, du moins dans l'univers de la parapsychologie. Le cheval de Roger Patterson va hennir. Patterson est désarçonné. Lorsqu'il se relève, il voit devant lui, à quelques dizaines de mètres, une espèce de créature simiesque qui est là et qui marche en s'éloignant de lui. Il dira plus tard, elle marchait lentement comme un homme qui s'éloigne dans la rue. Bob Gimlin, qui l'accompagne, lui, il lance sa monture. Il est toujours à dos de cheval. Il lance sa monture, va dégainer sa carabine. De mémoire, je crois que c'est une 30-30 automatique. Et il va tenter de couper la route à la créature. Parce que l'idée, tu comprends que Roger Patterson s'est vite relevé, s'est emparé, s'est sauté sur son cheval. Il a fouillé dans son sac, là, les sacs qui traînaient sur le dos de son cheval. Et il tire sa caméra et il court derrière la créature en braquant sa caméra. Et Bob Gimlin, lui, de son côté, tente de contourner la créature pour la forcer à changer de trajectoire, pour la replacer dans la trajectoire de Roger Patterson pour que Patterson puisse la filmer plus longuement.
D'accord.
Ça va plus ou moins bien fonctionner, mais bon, bref, ils vont tourner 59 secondes de film. Les 20 ou 30 premières secondes à peu près du film de Patterson sont inexploitables parce qu'il court en même temps derrière la créature. Donc, on n'a que des images qui sautillent, on voit à peu près rien. Patterson va même tomber, se relever avant de prendre une position plus statique et de filmer la créature. Mais on a quand même un 30 secondes de film qui est très spectaculaire. Et là, on voit la créature qui marche et à un moment donné, elle se tourne en direction de Roger Bateson ou de Bob Gimlin et puis elle continue à marcher puis elle va entrer dans la forêt. À ce moment-là, ils auraient pu poursuivre la créature, mais Roger Bateson va... Et là, je te raconte toujours l'histoire telle qu'il la raconte. Hein. Patterson dit, ben voilà, j'ai plus de film. Hein, il faut se rappeler qu'à l'époque, les caméras, c'est une caméra 16 mm qu'il utilisait, c'était des bobines de film de 3 minutes. Et donc, il avait déjà tourné à peu près 2 minutes de film à filmer des castors puis des écureuils. Là, tu sais, tu comprends? Donc, il restait à peu près une minute de film lorsque la créature est apparue devant lui. Donc, il tourne cette dernière séquence. Et là, il dit, bon, ben j'ai plus de film. À l'époque, ça peut paraître... Pour les gens qui sont pas familiers avec ça, ça peut paraître étrange, mais c'était très laborieux changer un film dans une caméra. On avait comme une espèce de poche. Il fallait mettre la caméra dans la poche en question qui était scellée, là, qui était dans l'obscurité totale. Et on avait comme des manches avec des gants au bout. Et là, avec ces gants-là, il fallait à tâtons ouvrir la caméra, enlever la bobine de film, replacer une autre bobine et ensuite refermer le tout avant de ressortir la caméra du sac. Sinon, le moindre rayon de lumière allait affecter le film et tout ça. Donc, c'était excessivement laborieux. Et ça demandait plusieurs minutes. Donc, quand Patterson dit, ben voilà, j'ai plus de film, il faut prendre le temps nécessaire pour changer le film. Et après coup, ben, quand la pellicule a été à nouveau chargée dans la caméra,
oui.
ils sont retournés dans la forêt, ils ont vu une ou deux empreintes de la créature, mais rapidement, ils ne l'ont pas revue. Ils sont revenus à l'endroit où ils avaient tourné le film, et puis, bon, il y avait quelques empreintes qui étaient laissées sur le sol. Ils les ont filmées, ils ont fait des moulages, tout ça. Mais cette courte séquence, ce fameux 59 secondes, ben, depuis 1967, on débat de ce film-là. Est-ce que oui ou non, le film est authentique? Est-ce qu'on voit réellement un Bigfoot? Et ça demeure encore aujourd'hui pour les défenseurs du Bigfoot, ça demeure la pièce maîtresse. Hein. C'est un peu là, pour le comparer, là, pour te donner son importance, dans l'univers de la cryptozoologie, le film Patterson-Gimlin, comme on l'a appelé, ce film-là représente un peu ce que le film Zapruder est pour les gens qui s'intéressent à l'assassinat de John Kennedy. C'est le fameux film qu'on le voit rouler dans limousine
et
se faire tirer. Ce film-là est devenu historique. Hein. Tous les amateurs de la mort de Kennedy, c'est le film Zapruder. C'est un peu comme le Saint Graal. Ben, dans le code de la cryptozoologie, quand on parle de Bigfoot, le Saint Graal, c'est le film Patterson-Gimlin. Et je vais être très honnête avec toi. J'ai eu beau passer ce film-là en revue, j'ai enquêté sur Roger Patterson, j'ai enquêté sur Bob Gimlin, j'ai même rencontré Bob Gimlin. Roger Patterson est décédé quelques années après. Hein. De mémoire, c'était 1972, donc j'ai pas pu rencontrer Roger Patterson. Mais j'ai rencontré plein de gens qui les avaient côtoyés. J'ai mené une enquête très profonde. Et les avis sont partagés. Beaucoup disent, ben, c'est un gars dans un suit, c'est clair, ça peut pas... Mais au-delà de ça, au-delà de notre perception, tu sais, t'as beau dire, ah, c'est un gars d'un sou, encore faut-il le prouver. Et malheureusement, j'ai échoué. Même si je reste intimement convaincu qu'il doit s'agir d'une fraude, parce que dans mon fort intérieur, le Bigfoot, il peut pas exister. Tu comprends? Fait que s'il peut pas exister, tu peux pas l'avoir filmé, là. C'est un peu comme si tu disais, ouais, j'ai filmé un lutin. Ouais, mais j'ai de la misère avec les lutins. C'est bon. Moi, j'avoue, j'ai de la misère avec le Bigfoot pour plusieurs raisons. Mais j'avoue être incapable de démontrer que le film est une fraude. Puis le film, il est, excuse-moi l'expression, là, mais il est mauditement bien réalisé. Si ce film-là est une fraude, Roger Patterson a réussi un véritable coup de génie. Parce que même si on se réfère au cinéma de l'époque, en les films où on voyait des costumes de gorilles et de singes, on pense par exemple à l'introduction de 2001, l'Odyssée de l'espace, tourné en 68, donc à peu près à la même époque, ou encore La planète des singes, les costumes étaient, les masques étaient rigides, et ça paraissait être des costumes. Alors que dans le film Patterson-Gimlin, il y a une espèce de fluidité qui est assez incroyable. Si c'est un costume qui a été fait par un individu dans son sous-sol, ben chapeau, il a réussi quelque chose d'incroyable. Et là, je vois que le temps file, il reste une minute, là, mais je vais te la prendre pour te dire qu'un des éléments qui est un argument en faveur du film Patterson, au-delà de la qualité de l'image, il est, je le dis là, et j'insiste, même si je suis convaincu que c'est une fraude, le film, il est vraiment remarquable. Mais l'un des éléments qu'on disait souvent pour dire que le film était encore plus remarquable que remarquable, donc super remarquable, c'était la démarche. La créature marche pas comme un humain. Tu sais, okay. Toi, tu mets un costume puis tu marches. La créature marche pas exactement comme ça. Il y a une espèce de démarche, un mouvement des épaules, des hanches, qui est très particulier. Et souvent, des gens évoquaient cette démarche-là en disant « c'est la preuve que c'est pas un humain dans un costume ». Et là, voilà que deux des chercheurs de l'Université Stanford, le professeur James Gamble, qui est professeur de chirurgie orthopédique à l'Université Stanford en Californie, et la docteure Jessica Rose, qui est la directrice du laboratoire de locomotion de l'hôpital Lucile Packard, qui est associée à l'Université Stanford. Ces scientifiques-là ont tenté de reproduire la marche du Bigfoot. Donc, ils ont demandé à quelqu'un d'être un comédien, ils l'ont habillé avec un costume de gorille, ils lui ont demandé de marcher en essayant de reproduire la marche de la créature que l'on voit dans le film du Bigfoot de Roger Patterson. Et ils ont réussi... Bon, mon Dieu, j'ai mon téléphone qui sonne, puis je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Bon, OK.
Laissez un message.
Oui, voilà. Donc, excusez-moi. Sans problème. Donc, ils ont reproduit cette marche-là et ils ont réussi assez aisément. Donc, le comédien qu'ils ont engagé, ils lui ont donné quelques directives, il a regardé le film à deux ou trois reprises, il a pu reproduire assez aisément, pas à 100%, mais suffisamment de manière assez convaincante pour dire « hop, c'est possible de le refaire », tu comprends? Donc, on sait maintenant, avec cette recherche-là, que la démarche de la créature n'est pas si exotique qu'on pourrait le croire. Un comédien, avec quelques indications, aurait été en mesure de faire une marche assez semblable à celle-là, sans obligatoirement faire intervenir dans l'équation une créature mystérieuse sortie de nulle part. Donc, la démarche, quand les amateurs du film Patterson-Gimlin veulent défendre ce film-là et qu'ils évoquent, par exemple, cette démarche très atypique, ben, on sait aujourd'hui que ce n'est plus un argument valable. Il est possible de reproduire cette démarche-là assez aisément. Ça ne veut pas dire que le film est faux pour autant, là, je tiens à le préciser. La seule chose qu'on dit avec ça, c'est que la démarche ne peut plus être évoquée comme un argument en faveur du film. Mais encore faut-il démontrer que le film est une fraude, ce que moi, personnellement, je n'ai pas réussi à faire. J'ai trouvé plein de petits trucs, hein, un peu étranges. Patterson n'a pas fait ci, a fait ça, a dit ceci, a dit cela. Tu comprends, on peut trouver plein d'éléments qui disent « ouais, ça sent pas bon ». Mais au-delà de dire « ça sent pas bon », encore faudrait-il prouver que le film est truqué. Puis les gens qui ont prétendu, parce qu'au fil du temps, tu comprends bien que des gens sont sortis de l'ombre en disant « c'était moi le gars dans le costume ». Un des plus sérieux est un type qui s'appelait Bob Hieronymus qui dit « c'était moi le gars dans le costume ». Mais ça fonctionne pas bien. La créature dans le film mesure 7 pieds 3. Bob Hieronymus n'est pas si grand que ça. Il n'y a pas la même gabarit. Tu sais, il y a des trucs qui ne marchent pas. Là. Donc, encore aujourd'hui, même si je reste personnellement convaincu que le film est sûrement une fraude, il reste un grand point d'interrogation. Ce film-là, je l'avoue, pour moi, c'est un peu comme un caillou dans ma chaussure. Je n'arrive pas à démontrer que c'est une fraude. Puis j'avoue qu'il est impressionnant. Quand je m'assois et je regarde le film, je me dis « tabarnouche, si c'est une fraude, maudit que c'est bien fait. Okay. » Vraiment, Roger Patterson puis Gimlin
ont
fait un truc qui est vraiment incroyable. Pour l'époque, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos du film Patterson. Donc, maintenant, je te laisse aller à la pause. Je te libère pour les deux prochaines minutes.
Bougez pas, on revient tout de suite après ces courts messages. Vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 Radio X.
Radio X-Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files et juste avant la pause, même au début de l'émission, Christian Page, tu me disais j'ai eu une grosse semaine parce que c'est le lancement d'un autre livre de Christian Page.
Oui, c'était mon 17e.
Wow.
Donc, c'est les Chroniques de l'étrange, tome 2. Tu as bien compris qu'il y a eu un tome 1 avant.
Oui, tout à fait. Ouais. Qui a bien fonctionné, j'imagine, si on y va avec le tome 2.
Oui, qui a très bien fonctionné. C'est le tome 1, il est sorti l'automne dernier. Donc, et là, le tome 2, c'est 75 histoires étranges. Et dans bien des cas inexpliqués, qui ont servi un peu de canevas, parce que tu sais que depuis 2022, j'anime une chronique à Salut Bonjour, une fois par semaine, et je présente des dossiers un peu étranges. Donc, les 75 histoires qu'on retrouve dans le tome 2, ce sont 75 histoires qui ont servi un peu de canevas à des chroniques que j'ai présentées dans le cadre de l'émission de Salut Bonjour. Mais tu comprends que, pour les amateurs de mystère, l'écrit vient pallier, en fait, à l'aspect un peu éphémère d'une chronique, qu'elle soit à la radio ou à la télé. C'est une fois qu'on fait une chronique à la radio, à la télé, c'est passé, c'est terminé. Bon, merci, bonsoir.
Ouais.
C'est comme tout ce que je dis ce soir, hein. Bon, demain, ça ne sera plus d'actualité. Tu comprends? À moins d'enregistrer l'émission et de la réécouter en rediffusion. Mais on comprend, bon, on a une émission, c'est un direct. Merci, bonsoir. Donc, l'idée des chroniques est née de cette idée-là, de dire, OK, mais un coup qu'on l'a raconté à la télé, est-ce qu'on peut garder quelque part une trace écrite de ça? Et c'est comme ça que l'idée est née. La sélection des textes, on ne s'est pas fait de manière à dire ça va être les meilleurs, les plus extraordinaires, les plus ci, les plus ça. On est allé vraiment là sur, j'ai donné un peu à l'éditeur 150 histoires. Les 150 histoires, on en fait une sélection un peu arbitraire pour les 75 premières qui ont été publiées dans le Chronique de l'étrange tome 1. Et puis là, on vient de présenter le tome 2. Je comprends que les deux réunis, on parle de 150 histoires. On est presque, c'est presque une encyclopédie, là. Quand tu as 150 histoires thématisées qui vont des ovnis aux disparitions mystérieuses en passant par des créatures de la cryptozoologie, on est pratiquement dans le cadre d'un univers encyclopédique. Donc, j'ai choisi un format court, hein, lorsque moi j'écris des ouvrages, c'est peut-être une déformation journalistique de faire ça, mais j'ai tendance à consacrer des chapitres assez longs. Tu connais l'expression « le diable se cache dans les détails ».
Moi,
j'aime bien aller justement dans le détail. Juste avant la pause, d'ailleurs, je te parlais du film Patterson-Gimlin, oui. Où là, j'avais trouvé plein de détails, mais je n'ai pas pu démontrer que c'était une fraude. Dans le cas des histoires qui sont présentées dans « Chronique de l'étrange », c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que contrairement aux autres livres que j'ai faits dans le passé, où j'allais vraiment, je pouvais consacrer un chapitre de 50-60 pages sur une histoire en particulier, parce que j'allais dans le détail, mais c'est vrai que c'est pas forcément un style ou une forme qui est propre à tout le monde. T'sais, beaucoup de gens disent « Oui, mais moi, bon, j'ai une famille, j'ai le travail, etc. Je peux pas arriver à la maison, puis m'asseoir, puis me lancer dans un chapitre de 60 pages. » Donc, on a choisi pour les Chroniques de l'étrange des formats courts. Donc, toutes ces histoires, elles sont racontées sur 3-4 pages maximum. Donc, c'est idéal si vous êtes dans le transport en commun, vous êtes dans une salle d'attente ou le soir, avant de se mettre au lit, on peut lire 2 ou 3 histoires. Et on y va tout azimut. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de fantômes, des histoires d'ovnis, des histoires de créatures étranges. Donc, on va vraiment dans tous les sens. Donc, le livre est disponible donc, depuis mercredi de cette semaine, Chronique de l'étrange. Et si les gens, j'espère que les gens qui nous écoutent seront intéressés par le sujet et puis seront nombreux à se procurer l'ouvrage qui, je l'espère, plaira à un grand nombre de lecteurs. Cela étant dit, je sais qu'il nous reste encore quelques minutes, 7-8 minutes. Je vais parler d'une nouvelle étude qui a été menée sur la conscience. C'est pas une étude qui révèle grand-chose. Hein. Je sais, à plusieurs reprises, quand on arrive à cette thématique parapsychologie, c'est vrai que c'est un sujet qui fascine beaucoup les chercheurs, l'idée de la conscience. Y a-t-il une vie après la mort, après tout, faut quand même le dire. Hein. C'est le plus grand mystère qui demeure, la vie après la mort. Donc, on a fait... ce sont des chercheurs de l'Université de l'Arizona. Ça vient d'être publié cette semaine. Des chercheurs de l'Arizona qui ont fait une recherche en faisant ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé un ensemble d'études qui avaient été menées et ils ont sorti des éléments à travers ces études-là pour essayer de dégager une espèce de corpus de ce que l'on peut tirer sur ces éléments qui démontreraient finalement l'existence d'une conscience après la mort. Et ce qu'on en avait déjà parlé ensemble,
oui, je me rappelle.
On parle surtout de ces expériences de mort imminente, hein, où ils sont prêts après un accident ou dans une
lorsqu'on les réanime,
d'urgence. C'est ça. Donc, il y a une période où pendant 3 ou 4 minutes, le cœur est arrêté et puis, bon, les fonctions vitales passent du ralenti à l'arrêt. Et on sait que c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente et 20% d'entre eux raconte à leur retour, je me rappelle avoir vu un tunnel, une lumière, avoir vu des gens, etc. Donc, ils ont un récit qui est assez élaboré de ce qui s'est passé durant cette période. Et on dit 20%, mais ça ne veut pas dire que c'est que seulement 20% des gens vivent l'expérience de la mort imminente, hein.
Non, en effet.
On pourrait donner un peu l'analogie des rêves, hein. Il y a des gens qui vont dire « moi, je rêve jamais ». C'est pas vrai. Tout le monde rêve, puis on rêve de longues heures par nuit, là, 4, 5 heures, 6 heures par nuit.
Mais c'est le souvenir. C'est
ça. Beaucoup de gens ne se révèlent pas. Moi, le premier, hein, moi, je me rappelle que très, très, très rarement mes rêves. Là. Dès que j'ouvre les yeux, je ne sais plus à quoi j'ai rêvé. Donc, j'aurais tendance à dire « je rêve pas » ou « je rêve jamais », mais ouais. Ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est un peu la même chose avec les expériences de mort imminente. La question qu'on doit se poser, est-ce que seulement 20% des gens vivent une expérience de mort imminente ou est-ce que seulement 20% des gens s'en rappellent?
Donc, en sont conscients, on
est plus porté à croire que seulement 20% des gens se rappellent de l'expérience, mais que l'expérience, elle doit être commune à tout le monde. Donc, ce que l'on a fait avec cette méta-analyse, donc on a dégagé ça, donc on a déjà ce 20%. Il y a quand même des éléments qui ont été mis en exergue, qu'on a démontré, qui sont assez intéressants. C'est que le processus de la mort peut durer là, de quelques minutes à plusieurs heures. Donc, on a remarqué dans certaines études qu'il y avait, par exemple, de l'activité cérébrale qui pouvait se produire, neuronale en fait, qui pouvait se produire plusieurs heures après le décès. Donc, c'est faux de prétendre que... ça ne veut pas dire que si je te ranime 4 heures après ton décès, que tu vas être en bonne santé. On s'entend bien là-dessus. Mais au moment où il y a le décès, là, si on n'est pas dans une condition où on peut maintenir le corps en vie par des mécanismes, généralement, après un arrêt cardiaque, le cerveau, après 3 minutes à peu près, il commence à présenter, là, plusieurs parties du cerveau commencent à s'arrêter. Et après 3 minutes ou 4 minutes, à moins des conditions extrêmes. On a vu des gens, par exemple, qui étaient tombés dans de l'eau très, très froide, qu'on a réussi à ranimer après 6 ou 7 minutes sans qu'ils gardent vraiment de séquelles. Mais en temps normal, dans des conditions normales, d'un environnement, dans des conditions environnementales qui sont normales, généralement après 3, 4 minutes, 5 minutes maximum, on commence à avoir des lésions cérébrales qui sont très importantes. Mais dans le cas présent, on a remarqué que dans certaines études, qu'on avait remarqué, même après le décès, des heures après le décès, on avait remarqué qu'il y avait encore de l'activité neuronale qui se produisait. Donc, ça semble dire que le cerveau, il pourrait garder là, un fantôme de vie pendant un certain temps. Et ça pourrait également indiquer que le temps de réanimation du corps pourrait être plus long. Donc, à partir du moment, et ça, il y a une conséquence ici. Parce que si on dit, OK, maintenant, parce que la mort, il faut bien s'entendre, la mort est un protocole. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un siècle, s'il y avait un arrêt cardiaque, on disait, il est mort. Tu sais, bon, ça vient de finir là. Et dans les années 50, on se disait, quand l'encéphalogramme devient plat, c'est forcément qu'il y a une mort cérébrale, donc l'individu est décédé. Et puis, on a comme peaufiné un peu ce protocole. On s'est dit, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que même parfois, quand l'encéphalogramme est plat, puis on a réussi à ramener des gens par des massages cardiaques ou peu importe, ces gens-là sont revenus à la vie, puis ils gardaient pas de séquelles. Donc, ça veut dire que l'encéphalogramme plat n'était pas synonyme de la mort. Donc, au moment où on se parle, je dirais que le consensus dans le domaine scientifique, c'est l'absence de réaction, et principalement l'absence de réaction rétinienne. Si je te mets une lampe dans un œil, puis on voit ça dans les films, le médecin braque la lampe dans l'œil. Si l'œil, la rétine de l'œil ne réagit plus, généralement, on va considérer que l'individu est décédé.
OK.
Mais cette méta-analyse montre que, encore là, ce processus-là, il peut être plus lent qu'on le croyait. Donc, même s'il n'y a plus de réaction à la rétine de l'œil, le corps pourrait peut-être être réanimé encore 2, 3, 4 minutes après ce passage-là. Donc, si le médecin détermine, au moment où il n'y a plus de réaction à la rétine de l'œil, et que tu as décidé de faire don de tes organes, et on décide de prélever tes organes à ce moment-là, et on vient de t'enlever la possibilité d'être animé dans les 2 ou 3 prochaines minutes. Donc, il y a comme cet élément-là qui doit être considéré. Et en même temps, ce que ça nous dit, c'est que même si après, au moment où il n'y a plus de réaction dans la rétine de l'œil, souvent les urgentologues, ils vont dire, on va abandonner, voici, la personne est décédée. Mais cette étude-là semble démontrer qu'avec un certain acharnement, pas exagéré, mais avec un certain acharnement, il serait possible encore de ranimer le sujet, même 3 ou 4 minutes après ce que l'on considérait ou considère encore aujourd'hui la mort. Donc, on pourrait ramener cet individu-là.
Okay.
Donc, ça, c'est intéressant. Et le fait que les individus se rappellent, dans 20 % des cas, comme je l'ai mentionné, qu'il y a quelque chose au moment... Parce que la grande problématique avec l'expérience de mort imminente, c'est à quel moment le voyage se fait. Et ça, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. C'est-à-dire que toi, tu me dis, j'ai vécu une expérience de mort imminente, j'entendais les médecins qui parlaient autour de moi, les urgentologues, les ambulanciers. Oui, mais tout ton accident de voiture, là, t'as eu un accident de voiture, le temps que les urgentologues arrivent là, tu es inconscient, t'es pas mort durant tout ce temps-là, tu comprends? Sur la période où il va y avoir l'intervention des médecins, l'intervention des urgentologues, ça peut durer de longues heures. Sur cette longue période, on donne un chiffre par exemple.
14-15 heures, ou 3 heures.
Si c'est 3 heures, t'es pas mort pendant 3 heures, t'es mort pendant 3 ou 4 minutes durant ces 3 heures-là. Donc, le souvenir que tu me racontes à ton réveil, tu dis, j'ai entendu les médecins qui parlaient, j'ai entendu les urgentologues, est-ce que ça s'est produit avant ton décès ou est-ce que ça s'est produit après ton décès, tu comprends? Donc, comment être certain que ce que tu racontes s'est produit durant le temps où tu étais décédé? Avec cette méta-analyse, on avait de très nombreux cas qui avaient été bien documentés parce qu'il y a de nombreuses recherches qui ont été lancées au cours du temps où on a étudié des gens au moment où ils étaient décédés dans un centre hospitalier. Donc, on pouvait documenter minute par minute l'état de la mort et à quel moment ça se produit, bon, qu'est-ce qui se passe. Et on a pu documenter que beaucoup de ces gens-là qui se rappelaient des expériences de mort imminente, ce qu'ils racontaient semble s'être produit au moment où ils étaient vraiment morts.
Okay.
Donc, ça semble dire que la conscience continue d'exister. Combien de temps, si la conscience existe après la mort, combien de temps existe-t-elle? Est-ce qu'elle existe de manière absolue et ad vitam aeternam, là, pour l'éternité? Comme on n'a jamais réussi à ramener quelqu'un qui était mort après 4 heures pour savoir s'il y avait des souvenirs 4 heures encore après son décès, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait que quelques minutes après la mort, la conscience semble exister encore. Et ça pose un questionnement, parce que le grand questionnement, c'est est-ce que la conscience, elle est une création de notre cerveau, autrement dit, une partie de notre imaginaire, hein, nous imaginons avoir une conscience, où est-ce que cette conscience-là, elle peut exister en dehors de mon cerveau?
Sans contrôle.
Donc, sans être lié à l'activité neuronale.
Je comprends.
C'est un peu ça la question.
Oui.
Donc, et là, on l'appelle conscience, mais on comprend que si tu poses un peu le raisonnement, cette conscience-là, tu peux l'appeler l'âme aussi. Hein, fait une démarche un peu du genre ésotérique ou mystique, tu peux dire, c'est la conscience ou l'âme ou peu importe, mais c'est l'essence de toi-même qui continue d'exister après ton décès. Donc, cette étude-là est intéressante. Elle ne nous apprend rien de vraiment nouveau, mais elle souligne au crayon gras des éléments qui avaient été apportés, qui avaient été déjà soulevés par d'autres études et qui, encore une fois, nous replacent dans un grand questionnement. Est-ce qu'il existe quelque chose après la mort? Ces études semblent indiquer que oui, mais encore faut-il le démontrer de manière plus soutenue.
Oui, puis c'est souvent le même genre de questionnement lorsque les gens sont dans le coma aussi pendant des mois et même des années, où il y a des gens qui vont mentionner avoir parfois entendu, parfois avoir été conscient d'une situation, mais pas être conscient du temps. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut.
Oui, absolument. Tu sais, puis même encore là, les neurologues, tu sais, sont un peu ambigus sur ça. Dans quelle mesure est-ce que l'individu peut être vraiment conscient de l'extérieur, ou est-ce que cette partie-là de ce qu'il croit raconter, est-ce qu'il la raconte de manière imaginaire? Mmh. C'est-à-dire qu'au moment où il se réveille, il sait qu'il a été dans le coma pendant des mois, il raconte, il y a un récit articulé où il dit « j'entendais des voix, ceci ou cela », mais dans quelle mesure on peut documenter ça? Parce que supposons, toi, tu te retrouves à l'hôpital, et puis tu t'imagines, t'es dans le coma, tu t'imagines forcément que tes parents ont dû te visiter. Donc, au moment de ton réveil, 3 mois ou 4 mois après ton coma, tu te dis, je me rappelle avoir entendu mes parents qui étaient dans la chambre, qui discutaient. Forcément, ils ont dû te visiter et forcément, ils ont dû avoir des conversations au pied de ton lit. Mais est-ce que le souvenir que tu as de cette conversation-là, il est un souvenir imaginé ou est-ce qu'il est un souvenir réel? Est-ce que tu as réellement entendu cette conversation ou non? T'sais? Donc, il faut que tu dises, faudrait que tu puisses rapporter des brides de la conversation de manière très précise. Mais comment on peut le démontrer? T'sais, par exemple, tu dis, je me rappelle avoir entendu maman qui parlait, de l'achat d'une nouvelle voiture. Mais, puis là, oui, c'est vrai, nous avons parlé de l'achat d'une nouvelle voiture. Mais est-ce qu'on a un film qui peut démontrer que cette conversation-là à propos de la nouvelle voiture s'est réellement produite au pied de ton lit ou est-ce que c'est une conversation qu'elle avait eue avant ton accident? C'est le problème ici, il est toujours dans la documentation de l'expérience. T'sais. On a beaucoup d'éléments, mais encore faut-il scientifiquement démontrer de manière convaincante que le récit qui est rapporté par l'expérienceur, appelons-le comme oui. ça, que ce récit-là s'est réellement tenu dans la chambre au moment où il le dit, et que ce soit dans un état de coma ou que ce soit encore dans un état de mort imminente, là, les fameuses expériences, les EMI ou NDE là, de l'acronyme anglais Near Death Experience.
Mais le seul témoignage de quelqu'un que je connais qui a fait un grave accident de voiture, qui était dans le coma quelques mois, là, et la seule chose qu'il mentionnait, c'est qu'il se rappelait que parfois, il avait l'impression de se réveiller, mais il ne pouvait pas rien faire, pas ouvrir les yeux, pas bouger, pas parler, puis que ça s'effaçait rapidement. Là. C'est le seul témoignage ouais. qu'il nous a fait. Ouais.
Mais puis encore une fois, il faut être très prudent. Mais il y a une expérience qui a été menée, par exemple, dans les expériences de mort imminente, quand je te dis « faut-il le démontrer? » Bon, il y a une expérience qui est bien connue, qui s'est produite en Angleterre, à une intersection, on a un motocycliste qui fait un accident. Et il est projeté de sa moto, il roule sur l'asphalte et éventuellement, les gens vont appeler les urgences, l'ambulance qui arrive. Puis bon, le type, durant cette période-là, il va décéder. Hein, il va avoir un décès confirmé de 3 ou 4 minutes. Et puis ensuite, on l'amène à l'hôpital. Quand il va revenir à lui, il dit « ben voilà, je suis mort, 3 minutes ». Et là, il raconte un récit très articulé. Hein. « J'ai été éjecté de ma voiture et puis bon, de ma moto. Et là, j'étais au sol. » Et là, il raconte. Il dit « je me vois, je flotte au-dessus de mon corps. Je vois les urgentologues qui sont là. Je vois ce qu'ils font. On me prend, on me met sur une civière, on me met dans l'ambulance, etc. » Donc, il raconte. Il y a ce récit très articulé. Le problème, c'est qu'à l'intersection où l'accident s'est produit, il y avait des caméras qui ont filmé l'accident. Et ce qu'il raconte n'est pas ce que l'on voit sur les images.
Ah, tu comprends?
Les urgentologues ne sont pas arrivés comme il le raconte. Ils ne l'ont pas mis dans l'ambulance comme il le raconte. Donc, tout le récit qu'il fait, qui est supposé être le récit de sa mort imminente, ben, ce récit-là n'est pas confirmé par les images. Ouais. Les images montrent que ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, ici, tu comprends, si toi, tu es une des personnes qui dit « Non, à mon avis, les expériences de mort imminente, c'est rien de plus que de l'imagination, notre cerveau qui crée des images rassurantes parce qu'on est à la veille de mourir », ben évidemment, ça ajoute de l'eau au moulin de ton histoire parce que là, tu as un élément documenté qui montre qu'un récit de mort imminente n'est pas conforme à la réalité objective. Donc, ça reste encore une fois un grand point d'interrogation.
Tout à fait. Christian Page, c'est tout le temps qu'on a déjà.
Oui,
ça passe à une vitesse...
incroyable.
Oui, comme à chaque semaine.
Oui, absolument.
On aura le bonheur de se retrouver dès vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files. D'ici là, je vais te souhaiter un bon week-end pour te reposer après toute cette semaine-là de lancement de livres. Rappelons-le, là, le livre qui est disponible.
Oui, depuis quelques jours maintenant, Chronique de l'étrange, tome 2, c'est disponible dans toutes les librairies. Et ben, si vous aimez le tome 2, ben, je vous invite à vous procurer le tome 1 qui est également disponible, qui est sorti l'automne dernier.
Christian Page, bon week-end, puis on se retrouve dès vendredi prochain.
Absolument. Bon week-end à toi.
Merci beaucoup. C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Au retour de la pause, c'est la sexploratrice.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.